En tête du cortège, un escadron de Uhlans précédait la voiture attelée à la daumante de l'impératrice, auprès de qui était assise la princesse héritière du trône. L'impératrice saluait sans trêve, avec la bonne grâce d'une vieille dame au coin de sa cheminée. La jeune princesse avait la sveltesse et presque la gaieté d'une joueuse de tennis. Après elle venait le groupe magnifique des cavaliers impériaux, Guillaume et ses fils, encadrés de leurs officiers d'ordonnance. L'empereur, en uniforme blanc, avec une écharpe orange et le bâton de maréchal à la main, chevauchait dans une attitude imposante, préoccupé, semble-t-il, de donner une image de la force plutôt que de séduire. Sans un sourire et gardant une constante raideur de tout le corps, il promenait à droite et à gauche des regards de maître, comme un inspecteur général de l'Empire. Pourtant, s'il voyait un balcon avec des dames, une demeure plus élégante, il saluait. Les figures jeunes et saines de ses fils complétaient d'une belle espérance ses vigoureuses réalités. Un escadron de Uhlans, puis une corde d'écuyers ou de laquais à cheval, fermait la marche, suivi d'une file de dignitaires en voiture. Les tintements graves de la mule et les sonneries de toutes les églises se mêlaient aux acclamations loyales des Allemands. Parfois, sur un espace de 30 ou 40 mètres, en place des Roch, régnait un morne silence et nulle tête ne se découvrait. Le fier cortège traversait un îlot d'indigènes. Mais cette abstention ne pouvait que rappeler aux vainqueurs l'orgueil de fouler une nation de vaincus. Les jeunes professeurs n'aperçurent qu'une seconde l'empereur quand il descendait vers le pont à la hauteur de la rue des Pics. Mais ils le revirent amplement, le chef de leur race, sitôt qu'il arriva de l'autre côté de la rivière, sur la vaste place où les aigles de Napoléon décortent encore la préfecture et que la musique entonna l'hymne national allemand, « Nous te saluons, couronné des lauriers du vainqueur !» Quel spectacle saisissant et qui ranime chez tous l'enthousiasme de la victoire. Chacun des hôtes de M. Asmus participe des plaisirs d'orgueil de son empereur. Il est là, entouré des siens, dans un appareil à la fois majestueux et familial, celui qui incarne les morts, les vivants et ceux qui naîtront. Quelles doivent être les sensations d'un tel héros? Ce n'est pas donné à un loyal sujet de les connaître, mais qu'un Allemand les éprouve dans leur plénitude, voilà qui épanouit l'orgueil de chacun. Monsieur Asmus, à cette minute, était séparé par un abîme des dames Baudoch. Il n'était plus celui qui, durant quelques semaines, s'était laissé séduire par une petite intimité monotone et froide. Mais le cœur tout en feu, il voyait les deux femmes comme des rebelles tapis au fond de leur obscure retraite. Ses camarades l'entraînèrent. Les brasseries regorgeaient d'officiers, de fonctionnaires avec leurs familles, et de vieux guerriers aux gosiers desséchés par les Rochs. L'inoubliable grand-père, l'épée de Brandebourg, le loyal allemand et le fidèle poméranien, toute la ferblanterie de l'Empire, s'entrechoquaient dans une multitude de toasts. Les orchestres jouaient sans relâche des morceaux patriotiques, et de temps à autre, s'ils entonnaient la Wacht zum Rhein, la salle entière chantait. Dans la griserie de tout ce peuple de Germains, on sentait l'orgueil de se trouver sur un sol conquis. Les sentiments guerriers héréditaires, depuis longtemps assoupis chez le jeune professeur, reprenaient en lui toute leur virulence. Il jouissait comme d'une vertu et d'une volupté d'entrer avec toute sa force individuelle dans un ensemble pour devenir l'humble molécule d'un grand corps. Cette fraternelle entente de M. Asmus avec ses collègues se maintint après le départ de l'empereur. Et au milieu de mars, il continuait de déserter chaque soir, la lampe et les conversations des dames Baudoche. À cette date, les murs de Metz se couvrent d'affiches annonçant par trois mots joyeux comme un bulletin de victoire que Salvatore est arrivé. Et l'on voit les Allemands se ruer dans les brasseries. Salvatore est une bière de Munich, fameuse dans sa fraîcheur, qu'ils boivent jusqu'au vomissement. Quand ils ne peuvent plus parler, il suffit qu'ils laissent lever le couvercle de leur pose à bière, et les servantes, toujours lymphatiques, mais électrisées par cette grande semaine, ramassent les pots, ne les rincent plus, les remplissent et les confondent. Qui s'en plaindrait dans cette immense communion? Mais il arrive des accidents, et M. Asmus l'allait voir. Une nuit vers 2 heures du matin, Colette entendit un pas lourd qui titubait, trébuchait à chaque marche. « Bon, dit-elle avec dégoût, c'est l'électricien. Pauvre femme !» Mais le pas s'arrêtait au premier étage, une clé tâtonnait autour de la serrure, puis des jurons et la voix du professeur. Le sentiment de l'honneur du foyer envahit subitement la jeune fille. Elle se lève, court à la porte, ordonne à l'ivrogne d'attendre, hésite à réveiller sa mère, s'habille, s'indigne à l'idée que les voisins pourront dire « Ah bien, il en fait une vie, l'Allemand chez les Baudoches !» Et puis lui ouvre. Quel sale maintien il avait, tout souillé et penché contre le mur. Un homme si instruit et tellement honnête. Alors, sans marquer d'indignation ni de colère, mais lui imposant par sa sévérité, elle le mène jusque chez lui, ne s'attarde pas aux remerciements qu'il balbutie d'une langue trop lourde, et revenue auprès de sa mère qui dort toujours, elle se dit « Tant de belles choses qu'il nous a racontées sur la noble vie familiale dans son pays ne rendent que plus odieuse sa conduite. Serait-ce donc qu'il nous méprise ?» Le lendemain, à son réveil, l'Allemand estima qu'il devait des remerciements à la jeune fille. Il s'arrangea pour la rencontrer au bas de l'escalier et lui dit avec une paisible assurance « Oh, je vous ai fait bien des ennuis hier soir, mademoiselle Golette. Je vous remercie d'avoir été si bonne avec moi. » « Oh, monsieur le docteur, jamais je n'aurais cru que vous puissiez vous mettre dans un état pareil. » « Ce sont nos mœurs, » dit-il. Et sur un ton plaisant, il exposa que depuis qu'il est question des Germains dans le monde, on leur voit cette habitude nationale de boire, et qu'aujourd'hui encore, c'est le vice dont se glorifient les plus illustres citoyens de l'Empire. Il ajouta que l'usage de la bière, très nourrissante et peu riche en alcool, entretenait la force musculaire des Allemands. « Alors, dit la jeune fille, chez vous autres, un monsieur a le droit de se montrer plus grossier que ne voudrait l'être un simple ouvrier médecin. » Monsieur Asmus sentit confusément qu'il venait de se mettre dans son tort, et comme il était net dans toutes ses actions, dès le soir même, au lieu de sortir, il revint occuper sa place dans la salle à manger. Les paisibles conversations reprirent. Il crut voir que Madame Baudoche s'en félicitait, mais que la jeune fille tenait désormais en suspicion l'idéalisme de l'Allemagne. Et prudemment, il se réfugia dans la collection de l'Austrasie. Un soir, il lisait à haute voix un article poétique quand éclata sur leur tête un affreux vacarme de meubles renversés. « Oh, quoi, on s'abuse !» dit Madame Baudoche. Le professeur regarda Colette. Mais là-haut, maintenant, les cris se mêlaient, un fracas de vaisselle et si fort que tous trois épouvantés, ils gravirent en hâte l'escalier. Chez les Kraus, ils trouvèrent dans une chambre bouleversée toute la famille en bataille autour de l'ivrogne écroulé. Voyez-le, dit la femme en le montrant aux dames Baudoche, mes parents m'ont jamais pardonné mon mariage avec lui. Eh bien, croiriez-vous qu'il vient d'aller leur demander de l'argent? Oh, faut-il être assez prussien pour manquer ainsi de cœur? À cette minute, le petit garçon de 7 ans qui se tenait cramponné en pleurant aux jupes de sa mère la saisit par les mains et la figure suppliante et toujours tournée vers elle lui cria « N'est-ce pas, maman, que je suis pas un Prussien ?» Et ce fut une belle chose alors de voir le professeur, excité par cette tragicomédie, prendre à partie en allemand son compatriote vaincu par le Salvator et lui crier sous la table qu'il devait écouter sa femme et qu'elle valait 1000 fois mieux que lui. Dorénavant, si l'on parlait de l'électricien, Mademoiselle Colette retenait un sourire et M. Asmus s'embarrassait. Mais la grand-mère ignorait toujours l'aventure bachique du professeur. Les deux jeunes gens avaient un secret. Sa naissance prédisposait M. Asmus à goûter cette vie humble et familière qui peut s'épanouir dans tous les climats, mais où l'étonne ici la nuance messine. Une discipline aisée, certains rites d'étiquette, et puis un usage de la raillerie interdite à des hommes trop neufs. Ce jeune colosse subit à son insu l'enchantement, la douceur d'une politesse naturelle et constante. Ces dames l'engageaient beaucoup à faire le voyage de Nancy. Pour les coutumes et les manières, disait Madame Baudoche, Nancy ne vaut pas le Metz d'avant-guerre. Mais le décor est bien joli. Je suis sûr qu'elle vous plairait, toute cette élégance française. Elles le persuadèrent et durant ses vacances de Pâques, il s'en alla paisiblement passer 48 heures de l'autre côté de la frontière. Monsieur Asmus n'avait aucune idée de s'intéresser aux Nancy modernes, car l'Allemagne possède de nombreux exemples d'une prospérité analogue. Et il se souciait peu du Nancy de nos ducs, si naturel, si fort, si touchant, où l'on respire une poésie noble et familière. Comme la plupart de ses compatriotes éclairés, il demandait à la France qu'elle lui présentât de beaux modèles du XVIIIe siècle. Aussitôt arrivé, il s'en alla tout droit vers ce qui fut préparé pour plaire, et de la gare descendit sur les 3 places fameuses que la ville, tout empressée qu'elle soit aux affaires, conserve comme des salons où recevoir et éblouir les étrangers. Le bel endroit charmant de clarté, d'équilibre et d'élégante fantaisie. Aucune ville au monde n'offre une œuvre du XVIIIe siècle comparable à cet ensemble architectural construit par les ouvriers de la Lorraine, sous la direction de l'un d'eux, Emmanuel Héré, qui s'était approprié la fleur des ouvrages classiques de France et d'Italie. Ici, il demeure fixé la minute rapide où notre société atteignit un point de perfection. Ce Nancy perpétue les sentiments, les manières d'être d'un monde où la plus extrême politesse fleurissait sur un fond sérieux jusqu'à la sévérité. Il y avait en haut une infinie délicatesse, une délicatesse à faire frémir, mais soutenue par des réserves magnifiques de santé et de honnêteté. Toutes ces belles choses de Lunéville et de Versailles, si plaisantes et si libres, étaient comprises par un peuple consciencieux d'ouvriers. Ce double caractère, cet heureux équilibre de la discipline et du caprice, c'est la gloire du Nancy des Stanislas. on y trouve la marque d'une volonté sûre de soi, servie avec la plus brillante exactitude. Quelle leçon de justesse dans la pensée et dans l'exécution! Ces trois places font trois inventions de la plus belle unité, en même temps qu'elles contrastent nettement les unes avec les autres. Chaque feuille de ce beau trèfle semble s'offrir comme un emblème. Ici, la place Stanislas, un vaste palais, quatre grands pavillons et deux plus petits, tous les cinq d'un style noble et grave, la dessinent, et ces bâtiments majestueux à la Louis XIV prennent leur grâce des fameuses grilles égayées d'or et des fontaines rococo, cependant qu'ils les relèvent en noblesse. Véritable place royale, elle étale largement au regard un principe bien assis de gouvernement, réglé, contenu par les hommes d'études, polissé par le sentiment féminin, obéi par l'énergie ouvrière. Toute voisine, la carrière où nous conduit un arc de triomphe, avec les graves maisons qui bordent son rectangle, nous donne l'idée d'une classe solide, fortement installée pour la défense sociale. Et non loin, un peu à l'écart, la petite place d'Alliance, uniforme, solitaire et taciturne, où le jet d'eau dans le carré des tilleuls exhale une sorte de mélancolie janséniste et nous rend sensible encore la douloureuse crise de la conscience nationale séparée de ses ducs. Bien des automnes se sont entassés avec les feuilles de ces vieux arbres sur la source lorraine, et pourtant, auprès de la fontaine de Sifflet, on entend toujours s'égoutter nos regrets. La mémoire de ces temps jadis n'a pu s'évanouir. Leurs beaux monuments répondent aux manières de sentir Lorraine. Car Nancy, aux portes d'or, n'a pas été déshonorée en passant à l'usage de magistrats cultivés ou de jeunes officiers. Les Nancéiens ne contrarient pas les effets de leurs trois places. Les beaux arbres qu'ils font pousser encadrent de leur verdure les fontaines monumentales. Et ce décor, où des étrangers risqueraient de ne voir qu'une façade un peu glacée, prend d'année en année plus d'âme au goût de ces Lorrains qui se plaisent à cacher leurs flammes sous un masque de froideur. J'ai vécu indéfiniment sur ces belles places nancéiennes. J'y ai vécu ma vie, une jeune vie à la française, audacieuse et mesurée. Elles sont pleines des menus faits de ma jeunesse et toutes colorées de mes jours passés. Et si j'aime y revenir, c'est moins pour leur art précieux que pour mes sentiments qu'elles raniment. Sur cette longue place d'arrière à main gauche, ce froid hôtel ne va-t-il pas s'ouvrir? Et de cette lourde porte désormais inutile ne va pas voir sortir le compagnon de ma jeunesse, Stanislas de Guelta, tout rayonnant d'amitié des beaux vers qu'il vient de créer. Il m'entraîne. Nous irons encore vers toutes les jeunes folles et joyeusement nous redoublerons nos absurdes gaspillages. Quel étudiant joignit jamais une telle impétuosité d'exubérance physique à un si vif sentiment intérieur du divin? Oh, je voudrais ce soir l'écouler et mieux saisir cette profonde pensée politique rhénane, toute pleine des sorcelleries lorraines. Mais ma solitude m'égare. Qu'on les excuse, ces troubles causés par la sympathie. Une musique indéfinie se lève de ces beaux endroits dont le caractère est si net et le discours si précis. Ces trois places, pour aucun Lorrain, ne peuvent être une sèche et morne connaissance pédagogique. Combien de soirs, au cours des années, n'ont-ils pas vu le soleil couchant et leurs rêves illuminer les vieilles fenêtres aux reflets métalliques du superbe palais devenu leur hôtel de ville? Il est impossible d'aimer, voire de comprendre aucun objet, si nous n'avons pas mêlé nos songes à sa réalité, établi un lien entre lui et notre vie. C'est peu d'avoir consciencieusement tourné autour d'une belle chose. L'essentiel, c'est de sentir sa qualité morale et de participer du principe d'où elle est née. Il faut devenir le frère d'une beauté pour bien commencer à l'aimer. Et M. Asmus lui-même, que trouverait-il sur la place Stanislas ce soir s'il ne la rattachait à ses expériences vivantes ? Le bon professeur, avant de quitter Metz, a consulté plusieurs membres éminents de la Société d'archéologie. Il a farci d'impressions préalables son carnet de choses vues. Voilà le meilleur moyen de tout savoir et de ne rien comprendre. Heureusement qu'il a pour toucher et avertir son cœur la grâce de Mademoiselle Colette. C'est par elle que cette place ne reste pas devant ses yeux un fait d'histoire, une élégante réussite. Sans le stage qu'il accomplit, qu'est Félix Maréchal, il serait un de ces Allemands aux poches bourrées de livres que l'on voit arpenter, étudier, contrôler nos trois places, et dont il faudrait croire qu'ils sont les plus fins connaisseurs en délicatesse d'art, si l'on ne remarquait qu'ils se mouchent dans des carrés de papier. Fâcheux signe extérieur. On peut craindre que des hommes si primitifs ne possèdent pas l'esprit de ces lieux et que nos merveilles raffinées ne soient pour eux des objets de musée, d'érudition, des formules. Mais Asmus a bien mûri depuis qu'il est chez les dames Baudoche. Dans cette neuve et saine nature de pédant, la petite vie des deux Messines se relie à ce décor nancéien. Il y a un rapport que l'âme, à défaut des yeux, saisirait entre cette humilité de cette magnificence. La paix que les habitudes de ces dames communiquent aux choses, l'exacte symétrie de leurs meubles, la figure même de Colette, tout ce qu'il y a dans leur atmosphère de net, de froid, d'élégant, a mis le professeur sur la voie de Nancy. Son cœur l'emporte vers la jeune fille. « C'est elle, pense-t-il, qui me tire le rideau de la beauté française. » Il s'attendrit, et tout le précieux trésor d'expérience qu'il a depuis 8 mois amassé, il l'étale sur cette place pour y vivre sans roman la plus romanesque soirée. Qu'il est heureux et réjoui, le bon professeur, comme il respire agréablement en buvant du vin sur cette place Stanislas. Nancy l'allège, le libère. Certes, depuis qu'il avait sous les yeux quelques images françaises, il souffrait confusément de ce qu'il y a d'embrouillé dans la civilisation allemande. Mais aujourd'hui, il aperçoit clairement quel fatras poussiéreux surcharge les greniers de son esprit. Il se connaît comme une chambre de débarras où s'accumulent d'immenses lectures tout à un encombrement venu du dehors. Pour la première fois, il s'explique ce que voulait dire Madame Baudoche quand elle s'écriait avec impatience « Oh, monsieur le docteur, tout ça, c'est des embrouilles à mini !» Jusqu'alors, il avait pour l'idéal Nuremberg. Mais voici qu'en une seconde, il apprend à distinguer ce qui est pittoresque de ce qui est beau. Ainsi, M. Asmus, sur cette grande place demi-obscure, s'enivre de rêverie. Devant un verre de vin, toutefois, car cette volupté un peu sèche a besoin qu'on la mouille. Mais sous l'action de si beaux modèles, il se sent devenir gentilhomme. Comme j'étais ivre l'autre soir. Si je titube à Nuremberg, c'est fort décent, mais je ne me consolerai pas d'avoir manqué aux convenances. sur la place Stanislas. C'est le soir après dîner. Des bourgeois promènent autour de la statue dans le centre sablé interdit aux voitures. Ils devisent et prennent le frais en attendant l'heure de dormir. Toute l'animation est rassemblée devant l'un des pavillons bas de la place. Un groupe élégant de viveurs occupe la terrasse d'un restaurant doucement éclairé. On cause, on prend des glaces et le regard de jolies filles entrer et sortir, monter en voiture. Monsieur Asmus les compare avec admiration à leurs collègues allemandes qui versent de la bière dans des brasseries fétides. Ce sont des princesses, pense-t-il, des sœurs indignes, mais des sœurs de Mademoiselle Colette. Monsieur Asmus s'égare dans des rongeries d'un style Louis XV. Et cette voiture de jeune plaisir qui s'éloigne au tournant de la place, il lui plaît d'y voir de tendres caprices et des sidalises qui se réveillent pour accueillir d'un sourire un digne érudit allemand. À son retour, M. Asmus trouva une vive querelle ouverte dans Metz. Une ordonnance du président de la Lorraine venait de supprimer l'enseignement du français dans les écoles de quatre villages. Moyeux, Grande, Clutange et Audin-le-Tiche. Ces mesures sont fréquentes, et leur effet est toujours pareil. Elles réjouissent les immigrés en même temps qu'elles indignent l'indigène. Au grand scandale de ses collègues, déjà fort agacés par l'enthousiasme qu'il rapportait de Nancy, M. Asmus soutint que détruire la langue française en Lorraine, c'était bel et bien détruire des intelligences. « Mais prenons, disait-il un enfant qui arrive à l'école. Vos maîtres refusent de lui apprendre à lire et à écrire le français. Ils ne peuvent pourtant pas faire que l'allemand soit sa langue naturelle. Voilà donc un estropié pour la vie. Où est pour nous le bénéfice? Je voudrais bien qu'on me dise en quoi le pangermanisme profite de cet abêtissement local. J'ai vu les devoirs rédigés dans notre langue par des petits indigènes. Ils ne présentaient aucun sens, n'étaient qu'une suite de mots ineptes. Monsieur Asmus fit plus que parler. Il agit, et soupçonnant l'administration de fournir des statistiques inexactes, il s'en alla les contrôler sur place. De village en village, il entra dans un très grand nombre de maisons. Il y goûta le plaisir nouveau d'être salué avec sympathie par des paysans à qui le maire avait appris sa bonne volonté. Ce fut l'emploi de son printemps. Moyeuvre-Grande, Fontoise, Clutange et Audin-le-Riche ont été récemment gâtés par les hauts fourneaux et surchargés d'Italiens. Ces allées et venues pour gagner ces pays jaunâtres de minerais mirent du moins le jeune professeur en goût de visiter tous les pays qui entourent Metz. Déjà ses collègues l'avaient mené dans les chaumes de Gravelotte et de Mars-la-Tour, sur le tragique plateau de l'Ouest, où toute une vie semble arrêtée, où rien ne bouge que les longues files de peupliers. Il commença de parcourir, seul, nos campagnes, si mal sous le grand vent. Il suivit la longue vallée étroite de Montvaux, mince prairie entre des collines, boisées de frênes, de chênes et d'érables. Il découvrit les diverses régions et distingua nos rivières, la Moselle plus aérée, la Nide plus intime et la Scie plus grave. La campagne autour de Metz est infiniment chargée, nuancée, pétrie par la culture, par les hommes, par des siècles de grande histoire et d'obscure activité. On n'y voit guère de beaux arbres. Le sol et le climat s'y prêteraient-ils mal, ou bien cette race positive réasile-t-elle trop vite? Mais dans les crous, tout autour des villages, les mirabelliers courbés, tordus et moussus, nous offre le plus parfumé bouquet de printemps. et parfois un pêcheur qui marche, les jambes nues, portant ses filets le long de la rivière, au pied d'un bois de hauts peupliers, fait un noble tableau du Poussin. Ce grand pays, large et simple, à plusieurs plans, délicieux de souplesse, avec des fonds très noyés, c'est un peu humide l'atmosphère de Florence. Toutefois, l'Arno toscan n'a pas la noblesse fière, la chasteté de notre rivière, quand les saules courbés par le vent se penchent sur elle qui fuit dans les prairies sombres. Et les larges couleurs profondes que notre terre prend parfois le soir s'accordent avec les vertus éprouvées et calmes de notre nation. Monsieur Asmus quittait quelquefois la Moselle pour atteindre sur sa rive droite la plaine de la Seille, vaste pays du blé et des chênes où galope un vent éternel. La terre y est grasse, forte, le plus souvent mouillée, en été crevassée. La Seille y serpente à plein bord, au milieu des roseaux, des peupliers et des saules argentés que la bise ébouriffe. Ces villages, que les gens de la Moselle nomment avec dédain les villages perclus de la Seille, tout gris sous des toits rouges, n'ont pas changé depuis des siècles. Leurs paysans sont des abeilles qui mêlent l'IFI silencieusement pour le collecteur d'impôts, qu'il soit de Metz, de France ou de Prusse. On y voit, çà et là, quelques gentilhommières dont les maîtres sont toujours absents. D'où vient la mélancolie inaltérable de cette plaine? De ces grands courbes monotones, de ces bouquets isolés, tous pareils, de son vaste ciel tourmenté, de sa terre figée, silencieuse, et des deux minotaures, le Saint-Blaise et le Somme, toujours dressés sur l'horizon. Allez voir, à Cilgny, dans la pauvre église, les fresques pieuses et barbares du XVIe siècle, et son cimetière où subsiste un charnier. C'est de là qu'on épuise le mieux toute la poésie de la Seille et que se resserre un cœur épanoui sur les bords de la Moselle. Qu'éprouvait-on dans nos campagnes, cet étranger, ce fils des vainqueurs? Les noms de nos villages prenaient-ils pour lui cette sonorité tendre et profonde à la Mozart, qui nous touche l'âme? Savait-il déchiffrer l'écriture mystérieuse que tracent nos arbres légers et leurs feuillages amenuisés dans notre atmosphère bleuâtre? Une pensée délicate, épurée, solitaire, s'élève avec leurs branchages. Ces bois paisibles, qui ne savent rien d'autre qu'une querelle, donnent une vive image du devoir, telle que l'accomplit une belle plante humaine, une riche et saine nature au milieu des maîtres injustes. Leçon utile aux vaincus. Notre digne rôle, c'est d'épanouir quand même nos puissances et de les faire au mieux admirables, dût-elle n'avoir aucun digne admirateur. Un Frédéric Asmus, s'il se présente pour recueillir notre héritage, en laissera glisser et s'anéantir la plus précieuse part. Il a du moins l'âme en mouvement et très sensible aux choses. Avec quelle avidité, en marchant seul dans la campagne, il regarde, écoute, admire ce qui naît spontanément du sol. Comme il se réjouit d'avoir tant d'inconnus à approfondir. La place Stanislas lui a délivré, épuré l'esprit. Cette campagne lui émeut le cœur. Le beau Nancy de Stanislas, on peut bien le dire, est surtout fait pour parler à des voyageurs pressés. On y trouve une beauté tout en fleurs, une admirable réussite, mais privée de lendemain. On y respire moins nos vertus de terroir que la pensée d'une petite cour dont le roi fut, plutôt que le dernier des ducs de Lorraine, le premier des majors de table d'hôte. Les campagnes que parcourt aujourd'hui le jeune Allemand sont plus efficaces et meilleures faiseuses d'hommes. Il y a des petits villages isolés au milieu des espaces ruraux qui, le soir, à l'heure où l'on voit rentrer les bêtes et les gens, m'apparaissent comme des gaufriers, et je crois que tout être, fût-il barbare, prussien, soumis à leur action patiente et persistante, y deviendrait lentement lorrain. Bien des générations reposent là, au cimetière, mais leur activité persiste. Elle est devenue ce groupe de maisons, ce clocher, cet abreuvoir, cette école qu'entourent les champs bigarrés de couleurs et de formes, et si l'on entre dans cette communauté, on y vient nécessairement se conduire et penser comme ont fait les prédécesseurs. Pour moi, dans ces retraites lorraines, si bien enveloppées, pressées, protégées par leur verdure reconnaissante, où les blés ondulent, où les poulains caracolent, où les filles et les garçons s'interpellent en beau patois avec des regards éternels, je redresse mes vertus d'âme et de corps. C'est un jardin de paradis, et l'homme de la Prusse orientale ne songe pas à le nier. Monsieur Asmus éprouve une estime affectueuse pour ces vignerons en blouse bleue qui regardent l'étranger avec indépendance, bien honnête au milieu d'une vie de droiture et de labeur. Il reconnaît chez les vieilles Lorraines, sous leurs bonnets gaufrés, non pas une âme meilleure et plus limpide que l'âme des vieilles mamans allemandes, mais une vive et saine malice. Il aime à voir les charmantes figures, déjà militaires, des enfants de 14 ans auprès des figures paisibles et claires de leurs grands-parents. Il écoute avec un plaisir de sympathie, çà et là, dans les champs, mêlé aux mots que les paysans disent aux chevaux, l'accent railleur et gentil des jeunes filles, de qui la halette sous l'immense soleil voile la figure. Bien que privées d'une beauté souveraine, les filles du pays messin, nettes et lumineuses, s'accordent avec les prairies, les collines, le ciel et la rivière, dont elles rehaussent la douceur en même temps qu'elles y prennent un charme d'exilé. Peut-être M. Asmus attribuait-il à la Lorraine beaucoup de mérites qu'il ne devait qu'au bien-être de la jeunesse et du printemps. Il est probable qu'il se fût attaché de même à tout autre pays où les tableaux de la nature auraient servi de cadre à ses premières émancipations. J'accorde qu'il savait gré à la Lorraine d'être la terre de sa 25e année, la forêt qu'il respirait, la rivière où il se baignait, le grand vent qu'il bravait avec toute la fraîcheur de son âge, mais enfin c'est chez nous et sur notre sol qu'il dépensait les effusions naturelles aux jeunes gens généreux. À défaut d'une affection de naissance, c'était presque un amour de mariage. Il découvrait, créait, mûrissait en lui une Lorraine par à peu près. Il la composait assez bizarrement d'un amalgame de ses rêves avec les notions que ses logeuses lui fournissaient. De lui-même, il sent la nature à la mode d'un Werther. Il s'y disperserait et le cadastre le gêne. Bien souvent, avec ses camarades d'université, il a gravi des montagnes et fait de longues marches en forêt. Il s'emplissait alors d'un plaisir confus dont il n'a gardé aucun bénéfice. Mais chaque soir, les dames Baudoches, à la manière de nos religions occidentales qui placent les déesses, les saints et les anges partout comme un écran entre nous et la nature, les dames lui nomment les châteaux, les autorités sociales, les souvenirs des cantons qu'il a traversés. Elles humanisent sa promenade du jour et l'envoient la semaine suivante au meilleur point d'où il verra les vertus de la terre lorraine. Ces belles précisions sauvent M. Asmus du vague, à la place d'une rêverie stérile qu'il aurait subie s'il avait été seul. le jeune Germain reçoit un excitant à la vie et voit naître dans son esprit une parenté avec les gens qui façonnèrent cette campagne. Pourtant, les enthousiasmes qu'il rapporte de ces excursions mettent mal à l'aise les dames Baudoche. Elles sourient et se méfient. Certains mots et certaines idées d'ordre poétique permis aux passants ne sont pas de leur usage. Les emballements du locataire, fort sympathiques à coup sûr, leur paraissent tout de même un peu saugrenus. Exactement, M. Asmus entrait dans un état mystique. Il devenait celui qui a trouvé sa voie. Bien des choses pourraient l'attrister. Sa fiancée réprouve ses expansions lorraines. « Rappelle-toi, Fritz, lui écrit-elle, comme ton père et le mien parlaient des Français et toujours se trouvaient d'accord pour voir en eux les ennemis héréditaires de notre race. » Mais le jeune homme est soutenu par le sentiment que depuis quelques mois, il se hausse à un degré supérieur de civilisation et que ce perfectionnement, il ne pourrait y faire obstacle. Cette vue de converti entretient dans son cœur une sorte d'attendrissement et même une émotion de reconnaissance qu'il reporte sur les petits messins du collège. Un après-midi, il faisait traduire à ses élèves le recueil de Plutz, qui est l'ouvrage classique pour l'enseignement du français en Allemagne. Le texte se rapportait à Napoléon Ier. Les uns après les autres, avec le dur accent des Schwabes, ou bien avec le traînement de voix des Welches, les enfants venaient d'annoncer quand l'un d'eux, son tour venu, rougit et s'arrêta. « Eh bien, lui dit M. Asmus, pourquoi ne lis-tu pas ?»« Mon père a dit que le livre ment et que Napoléon est un grand homme. » Ce fut dans la classe, réveillé par cet incident de frontière, un grand bruit de pieds, signe d'émotion. Le colosse allemand posa son regard étonné sur le petit Lorrain. Puis, se référant au livre, il lut à haute voix « La sincérité et la générosité étaient parfaitement étrangères à Bonaparte. Il avait coutume de raconter qu'un de ses oncles avait un jour dit de lui « Napoléon ira loin car il ment sans cesse. Loin d'admirer une belle action, il était incapable de la comprendre. » Il était convaincu que l'égoïsme est la vanité selon les mobiles de tous les actes et qu'on ne peut gouverner les hommes que par leurs vices. Toute la classe portait avec vivacité ses yeux du maître au petit camarade et se demandait comment les choses allaient tourner entre Goliath et David. Mais M. Asmus, quand il eut fini de lire le texte, refusa toute bataille. Il dit avec conciliation « Le livre insiste trop sur les travers de Bonaparte. C'est un fait que Bonaparte a enthousiasmé des millions d'hommes. On peut dire aussi qu'il a rendu de diverses manières d'immenses services à l'humanité. Et par exemple, il est probable que sans lui, l'unité allemande se fût faite moins rapidement. » L'aventure fut rapportée par des élèves, fils de fonctionnaires, à leurs parents, et dès le lendemain, le professeur fut appelé chez le directeur du collège, qui lui dit « Votre classe, monsieur Asmus, est une des mieux conduites de notre maison, et je ne puis donner sur vous que de bonnes références. J'apprécie cet esprit de vérité et de justice dont vous venez de faire preuve, mais enfin... Le livre est là, par le choix de nos supérieurs, et l'on ne doit pas remettre en question ce que l'autorité a une fois décidé. Je profiterai de cette occasion pour vous rappeler qu'ici le rôle d'un bon Allemand est double. Faire son métier et amener au germanisme les jeunes cervelles lorraines. Le directeur parlait avec une grande bienveillance, parce qu'il n'avait qu'un souci administratif, c'est-à-dire qu'il ne songeait qu'à éviter les histoires. Mais les professeurs, plus jeunes, plus libres, ne bridaient pas leurs dispositions philosophiques. Ils élargirent l'incident, et le pan-germaniste, au cours du déjeuner, se chargea d'exprimer leur déplaisir. Ils eurent une conversation qu'il est intéressant, je crois, de rapporter en détail, afin que l'on connaisse l'état d'esprit de M. Asmus et que l'on fasse la différence des deux opinions allemandes principales sur l'Alsace-Lorraine. Asmus, nous sommes inquiets, dit le pan-germaniste. Hier, vous vouliez que les Lorrains continuassent de parler français. Aujourd'hui, vous approuvez un élève qui contredit notre enseignement. Mais quelle idée vous faites-vous du rôle d'un Allemand à Metz? Où voulez-vous en venir? Monsieur Asmus, je suis un bon garçon et je ne veux pas détruire les cerveaux de ces petits Lorrains. Vous savez bien que nous tous arrivons en Alsace-Lorraine avec le désir d'apprendre le français. Cela me semble fort que nous tâchions d'anéantir chez les indigènes ce que nous voulons leur demander. Quant à ma conduite avec ce gamin qui aime Bonaparte, voici le fond de ma pensée. On dégrade les enfants si on les prive de leur vénération propre, et je n'ai pas jugé que ce fut notre rôle de faner chez nos élèves l'enthousiasme. Le pan-germaniste. Si messieurs les Lorrains se trouvent fanés par les vérités allemandes, qu'ils s'en aillent donc en France, où l'agriculture manque de bras, comme ils disent. Et du vieux sale, nous verrons accourir une multitude qui colonisera ce pays de la conquête, en chantant d'une seule voix les chants de nos pères. Laissez à d'autres, Asmus, le soin de flatter la bouderie de quelques Lorrains têtus, et soyons tous, bravement, les intérêts de notre grande race allemande. Moi aussi, j'ai mes camarades, j'entends servir les intérêts de notre race. Je continue la chanson de nos pères, mais nous sommes au deuxième couplet. Ils ont conquis le sol, à nous de conquérir les fruits du sol. Ici, naissaient et se formaient des hommes, préparés depuis des siècles à la civilisation. Pourquoi ferions-nous dépérir cette société? Notre venue est une crise pour elle, nous devons l'aider à la résoudre, prendre la direction de la prospérité générale, et ce qui nous manque, ce pays nous le fournira. Nous ne sommes plus des soldats excités, mais d'heureux héritiers en possession d'un vieux et magnifique domaine. Il n'est pas permis de rien détruire sur ce territoire sans avoir examiné, éprouvé toutes les valeurs qu'il renferme. Je crois qu'elles peuvent enrichir la vie allemande. Oh, mon cher collègue, on le devinait, vous êtes devenu un tenant de la culture française. Quelle mystification! Mais que voyez-vous que nous puissions envier à ces vaincus? Leur langue est claire, parce qu'ils ne vont jamais au fond des choses. Leur cuisine excite les sens, la politesse de leur salon n'est que le manteau de la débauche. Méfions-nous de ce qui subsiste ici, de cette fameuse culture française. Elle est un poison pour nos vertus mâles. Si nous n'y prenons garde, ce pays risque de nous éliminer et de nous élerver. Laissez-moi vous dire que vous ne possédez pas une image vraie du pays messin. J'ai la chance d'être placé dans un milieu où je vois les choses qui m'ont libéré de plus d'un préjugé. Au début, j'étais comme vous, je méconnaissais ce qu'il y a de véritable valeur humaine dans l'urbanité des gens de ce pays. Elle est chez eux un don de naissance, et puis une habileté légitime qui laisse intacte leur dignité. Vous parlez de notre discipline et vous croyez que la frivolité française nécessairement se dissipe, franchit toutes les bornes, se joue au hasard. Mais pourquoi n'allez-vous jamais à Nancy ? Sur la place Stanislas, vous verriez un sentiment souple, facile, heureux, et pourtant une œuvre précise, calculée, rigoureusement voulue, où tous les effets sont coordonnés, hiérarchisés, pour produire l'ensemble le plus noble et le plus aimable. Voilà ce que nous ne savons pas faire, car nous sommes incapables de mépriser notre sentimentalité et notre humeur par notre raison. Ma propre expérience m'a conduit à reconnaître la légitimité de ce que nous appelons chez les gens de ce pays « chauvinisme » et qui est la conscience raisonnable d'une culture qu'il faut apparenter, mes chers collègues, à l'atticisme hellénique. Dans nos universités, nous nous proposons comme modèle les Hélènes, mais nulle acquisition scolaire ne nous rapprochera d'eux. Un esprit pénétrait, harmonisait, lente leur vie. Je trouve ici quelque chose de cette unité. Vous le niez, mais je vis dans une famille lorraine. J'ai parcouru les villages, j'écoute parler des gens très modestes auprès de qui je profite. Je sais à Metz des personnes qui ont un esprit de moquerie si étonnant qu'on pourrait les croire sèches et méchantes. Oui, elles pourraient l'être, si elles le voulaient, mais elles sont naturellement bienveillantes. Ah, Smith, ah, Smith, vous vous laissez prendre des amitiés particulières. Elles vous empêchent de voir le grand rôle historique du peuple germain. Nous apparaissons toujours au milieu des civilisations qu'il faut régénérer et assainir. C'est le vieux service que nous avons rendu dans le monde. Aujourd'hui, tout ce qui a des origines germaniques doit retourner à l'Empire. Nous réclamons l'Artois, la Picardie, la Flandre, la Champagne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Bientôt, leurs populations revivifiées seront toutes heureuses de parler la langue de Schiller et de Goethe. Voilà le plan, et rien n'empêchera l'expansion de notre force. Eh bien, mon cher collègue, permettez qu'à mon tour, je vous expose des idées qui naissent d'un amour de l'Allemagne au moins égal au vôtre. Comme vous, je dis que ce qui est beau, ce qui est pur, c'est le cœur d'un loyal Allemand, aussi je ne veux pas le gâter en l'irritant contre une noble nation. Au contraire, je veux l'enrichir avec tout ce qu'il y a d'excellent sur son territoire. Vous parliez de Goethe tout à l'heure. Rappelez-vous ce qu'il a écrit, que nous autres Allemands, nous sommes d'hier, et qu'il peut se passer plusieurs siècles avant que nous cessions d'être des barbares. Nous avons fait de grands efforts pour nous civiliser rapidement, et nous nous sommes surchargés au point que notre sensibilité n'a jamais pu se développer. Mais nous n'avons fait qu'absorber. Où est notre nature ? Nous devons être très contents que ce pays mette un peu de France à notre disposition. Goethe, Schiller et beaucoup de grands hommes ont déclaré qu'il fallait à la pâte allemande un peu de levain français. Et voilà pourquoi la résistance lorraine me paraît une chose bonne, utile, conforme à nos intérêts. Il est possible que cette vie lorraine ne soit pas encore bienfaisante pour tous nos compatriotes, mais peu à peu ils la reconnaîtront et ne pourront plus s'en passer. Elle ne les dénaturera pas, mais je le sais par mon expérience, elle harmonisera leur mœurs avec leurs rêves. Elle répondra à leurs tendances profondes et, loin de les contrarier, elle les élargira, les haussera. En conquérant ce pays, nos pères nous ont vraiment menés sur un plateau supérieur. Je sais, Asmus, que vous n'êtes pas le seul dans ces idées. Il y a beaucoup trop d'Allemands par ici qui croient comme vous s'être hissés sur un plateau supérieur. Mais de votre élévation à tous, je ne vois que votre vertige. Vous vantez les Français, vous dites qu'ils sont l'ordre, l'harmonie, la mesure. Pourrez-vous joindre ces élégances à nos vertus germaines ? Le tout sera-t-il net? Garderez-vous votre nature vraie, saine et droite? Non! Vous perdrez votre santé morale. Ici, il faut choisir, être d'Allemagne ou de France. Toute incertitude est mortelle, Asmus. Vos collègues vous le disent, amicalement. Vous vous êtes exposé d'une manière coupable à de mauvaises influences. Vous croyez qu'elles vous ont élevé. Nous souhaitons que le jour où elles se dissiperont, vous n'ayez pas perdu pour toujours votre équilibre. Monsieur Asmus, fort animé, demanda le soir même à Madame Baudroche si elle voulait bien lui cuire désormais ses repas. « Oh, je suis sûr, dit-elle, monsieur le docteur, que vous ne pouvez plus supporter cette cuisine allemande qu'ils vous font à la brasserie. » Et de la manière dont elle le disait, il semblait que ce fût pour elle un triomphe personnel. Mais elle ajouta avec modestie, « Mais n'allez-vous pas regretter la société de vos compagnons, qui sont des jeunes gens instruits ?»« Instruits, c'est possible, » bougonna le docteur, « mais peu intelligent. » Il raconta qu'il ne s'entendait plus avec eux, parce qu'ils avaient l'idée barbare de vouloir dénaturer les petits Lorrains. « Ah bien, » dit Madame Baudroche, « ils s'imaginent qu'ils réussiront. Ici, les Lorrains, ça sort du sol, et les petits Kraus là-haut, qui sont des cafés au lait, ils parlent mieux le français que l'allemand. » Au cours de la soirée, il fut convenu que M. Asmus, qui payait 50 marks à sa pension pour son dîner de midi, donnerait 80 marks à Madame Baudoche pour ses deux repas. Mademoiselle Colette lui demanda s'il mangeait de la confiture avec ses rôtis. Et comme il disait que oui, ces dames le plaignirent et résolut de lui faire renier la cuisine de Königsberg. Pour son déjeuner de début, il eut une quiche lorraine et des andouillettes. « Comment ?» disait Madame Baudoche. « Depuis 6 mois que vous êtes à Metz, vous n'avez pas mangé d'andouillette. Mais on en vend jusqu'à Paris. Que mangez-vous donc ?» Il déjeuna au vin, un petit vin gris de Lorraine, et ne regretta pas la bière. « Ah, je me sens, disait-il, plus de finesse d'esprit. » La nuit suivante, il rêva qu'il mangea des andouillettes de Metz auprès de Mademoiselle Colette, dans les décors de la place Stanislas, et que ses collègues, assis à leur table, reconnaissaient leur erreur. Il nous est difficile à la longue de ne pas accepter le rôle que nous prennent deux femmes quand la sympathie les inspire. Le professeur Asmus, voyant l'objet de la sollicitude inlassable et des avertissements des dames Baudoche, entra sur toute chose dans le personnage d'élève. Au bout de 8 jours, il s'émerveillait que les œufs n'eussent pas été accommodés 2 fois de la même manière, et en même temps il jetait des regards pour savoir s'il les mangeait à la française. Il apprit assez rapidement à ne pas mettre le coin de sa serviette à son cou, à ne pas manger avec son couteau, à ne pas plonger le nez dans son assiette et, d'une manière générale, à boire, manger, souffler avec beaucoup moins de bruit. Cette guerre que les deux femmes faisaient aux mœurs allemandes de leurs convives contribuait à l'agrément de cette petite société. Elle donnait du piquant à la conversation. Elle permettait aux deux Lorraines de déployer leur malice naturelle. Il y a dans toute cette région un genre de moquerie, parfois bien rustique, bien dure, et qui patoise un sentiment presque farouche de la personnalité, mais à Metz, il prend un accent mieux polissé. Dans l'ironie de Colette, on sentait mêlé au rire facile de la jeunesse quelque chose qui partait plutôt de l'âme que de l'esprit, une sensibilité profonde qui repoussait parfois un peu sèchement ce qui lui était étranger. Monsieur Asmus n'en était pas offensé, car la moitié du temps il ne la sentait même pas, et ses dames, en voyant qu'il ne se blessait jamais, le déclarait un excellent garçon. Par la force des choses, leur vie se passait presque en commun. Madame Baudoche lui portait toujours son café au lait dans sa chambre, mais elle pouvait maintenant arriver en retard de 5 ou 10 minutes. Avant d'aller au collège, il entrait s'informer de la santé de Mademoiselle Colette. À table, au dîner de midi, il rapportait les incidents de la matinée, il signalait les maladresses de ses collègues, surtout il commentait le caractère de ses élèves. Et Madame Baudoche, animée par les noms lorrains qu'il citait, lui faisait l'histoire des parents de ses enfants, ce qui ramenait une fois de plus l'éloge du vieux Metz. Comme le sujet était inépuisable, il fallait que Colette intervînt. « Allons, maman et vous, monsieur le professeur, laissez-moi débarrasser la table. » Alors la vieille dame, souvent, se laissait persuader, tandis que sa petite fille remettait toutes les choses en ordre, de passer dans le cabinet du jeune homme. Et quand ils étaient seuls, ce n'était pas toujours de vieilles histoires qu'il parlait, mais elle lui disait combien Colette était animée de pensées sérieuses, tout appliquées aux soins du ménage et au travail de couture, sans que sa gaieté la quittât jamais. « Il ne me reste qu'elle et mes meubles, » ajoutait la vieille femme, qui s'accoutumait à voir son locataire accueillir toutes ses pensées. « Et c'est pour garder mes meubles à Colette que je conserve cet appartement un peu vaste, et que j'ai accepté de prendre un pensionnaire allemand. » Le bon monsieur Asmus comprenait la contrariété que ce devait être pour une vieille messine de loger un émigré. Il s'en allait à son collège, et vers 4 heures après la classe, il passait dire un petit bonjour à ses dames, avec le souci que sa présence leur devint un agrément. Vous travaillez trop, allons faire une petite promenade. Cela, c'était sa marotte. Il y revenait continuellement. Et ces dames, qui n'étaient jamais sorties avec lui que pour la conférence française et le théâtre, avaient de la peine à dire non sans le désobliger. Il ne soupçonnait pas que pour des messines, se montrer en public avec un Prussien sans rime ni raison, c'eût été, sinon trahir, au moins se diminuer, déchoir. Il se croyait maintenant presque un membre de la famille. Cette vie le remplissait d'un sentiment salubre et vrai. Sans doute, il jouissait imparfaitement du bonheur domestique, mais le tempérament de ces races du Nord est paisible, et le jeune homme appréciait avec une chaste délicatesse ces scènes familières et douces, cette quiétude d'un foyer messin. En même temps, il éprouvait quelque fatuité d'être initié au raffinement français, et il en faisait une suite de leçons à sa fiancée et se proposait de les introduire dans la famille qu'ils allaient bientôt fonder.